Maintenant, je pense que je vais passer la parole donc à Alain Fuchs et puis Jean Chambaz. Donc Alain Fuchs, président du CNRS, et Jean Chambaz, président de l'université Pierre et Marie Curie.
Alors j'ai même un petit discours. Il est bien en plus. Alors Non, c'est vrai, parce que vous savez, des fois, Alors quand je suis dans ma voiture et je lis ce qu'on m'a préparé, des fois je me dis, mon Dieu, qui est-ce qui a bien écrit ça? Alors du coup, j'improvise, mes collaborateurs n'aiment pas beaucoup quand j'improvise, parce que je me mets à raconter des choses, enfin, bon. Et franchement, voilà, à l'INSU, on m'a préparé quelque chose de très bien. Et puisque je parle de l'INSU, je voudrais en profiter pour transmettre un salut amical de Jean-François Stéphane, voilà, qui m'a mis un SMS tout à l'heure pour me dire qu'il vous transmettait son salut amical et enthousiaste pour cet anniversaire de l'IAP. Il regrette évidemment de ne pas être là. Vous savez qu'il est en convalescence d'un traitement médical un peu lourd. Il se repose, il va plutôt bien, en tout cas je l'ai eu au téléphone, il va plutôt bien, et nous espérons évidemment qu'il se remettra bien vite. Je suis sûr que vous serez avec moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement. 75 ans de l'Institut d'astrophysique de Paris, 75 ans plus ou moins quelque chose, j'ai compris ça tout à l'heure. À quoi servent ces anniversaires? Je crois que il y a un peu d'auto-célébration dans les anniversaires, et c'est normal, parce que si on ne s'auto-célèbre pas un petit peu, on attend souvent assez longtemps que les autres le fassent pour nous. Je crois que c'est important que on puisse de temps en temps s'arrêter, se dire voilà, il y a une date. On avait fêté les 75 ans du CNRS il n'y a pas très très longtemps. Je crois que c'est important. Alors au-delà de nos célébrations, je crois que ce sont les chiffres qui sont intéressants, hein, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, 1936-37, le ministère Jean Zay, créant le service de recherche en astrophysique, composé d'une station d'observation qui va devenir l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, d'un laboratoire qui deviendra l'IAP, rattaché, on l'a dit tout à l'heure, à la CNRS, qui était la Caisse nationale de la recherche scientifique, puis rejoignant le CNRS à sa création en 1939. Ce qui me paraît important, c'est quand on se rappelle de cette histoire et de la création de ces structures, ça n'est pas de considérer le passé comme confit ou comme... voilà, nous ne sommes pas le musée des arts et traditions populaires. Nous cherchons à puiser dans le passé des leçons qui sont utiles pour le présent et pour l'avenir. Ce que les leçons que nous pouvons tirer de aujourd'hui, c'est que bien il y a eu des moments où des décisions ont été prises, et ces décisions remontent assez loin. Ce sont des décisions politiques au sens de politique scientifique, mais des décisions politiques. Jean Zay a pris des décisions politiques, et ces décisions ont permis de lancer des opérations qui sont toujours vivantes aujourd'hui, qui se sont développées de façon extraordinaire. Imaginez si Jean Zay revenait aujourd'hui, ne serait-ce que quelques minutes, pour voir qu'on puisse lui raconter ce qui a été raconté de façon magistrale ici tout à l'heure. C'était absolument extraordinaire, je veux dire, de voir ce mélange de magnifique pédagogie sur le tableau, agrémenté de quelques très belles images. Vraiment, je vous félicite énormément. C'était un très très grand plaisir. Je veux dire que c'est la réflexion qui me vient à l'esprit, c'est bien celle de la difficulté de concilier le temps de la science, et c'est ce que nous disent ces anniversaires quand on fête 50, 75, 100 ans. Le temps de la science et le temps du politique, et je ne parle pas du temps des médias pour ne pas nous déprimer. Le temps de la science et le temps du politique. On dit beaucoup le temps du politique. Oui, c'est peu, c'est voilà, c'est là. Et il faut rappeler que le temps de la science est un temps long. Et il faut rappeler que quand on dit que le temps de la science est un temps long, on peut mesurer, vérifier, quand on s'arrête, comme on vient de le faire là aujourd'hui, pour une journée, on suspend le temps et on regarde ce qui a été fait et on vérifie que ce temps long n'a pas été perdu, que ce temps long a été utilisé, parce que c'est la spécificité de la science, pour créer des vérités, pour créer des concepts, des théories, pour connaître mieux l'univers. Ce temps long, il faut le rappeler, c'est important. Vous avez parlé de vos craintes éventuellement sur le présent, l'avenir, etc. Oui, nous avons, nous tous, à rappeler, et à rappeler notamment à nos tutelles, à nous, hein, que il y a des raisons, et de bonnes raisons, pour lesquelles le temps de la science est un temps long. Alors, je crois qu'il y a souvent des politiques qui le comprennent, et c'est sans doute le cas de Jean Zay. Je disais ça l'autre jour il y a quelques jours au ministre à Kyoto, au ministre japonais, ministre d'État de la science et de la technologie, je lui disais que des bonnes décisions politiques, même si le temps de politique est un temps court, de bonnes décisions politiques, eh bien, sont telles que on s'en rappelle et on s'en rappelle longtemps. Je lui ai pas dit de bonnes décisions politiques, il y en a parfois, je lui ai pas dit ça. Il m'a regardé. Il a fait, vous savez, comme font nos collègues japonais. J'ai cru comprendre qu'il était en train de réfléchir en disant qu'est-ce que c'est ce chimiste intellectuel qui vient me raconter le temps du politique et le temps de la science, alors que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les prochaines élections. Eh bien, je pense que c'est important de pouvoir rappeler à nos politiques qui s'intéressent à la science. Je crois qu'il y a un vrai intérêt pour la science aujourd'hui. Maintenant, le vrai intérêt pour la science veut dire aussi souvent que si on ne considère que le temps du politique, que le temps des quelques années entre deux élections, eh bien, il est assez naturel que si nous ne faisons pas l'effort pour expliquer ce que c'est, ce qui signifie et quelle est la vraie valeur et la richesse du temps long de la science, il est bien naturel que les hommes politiques représentants et la représentation de nos citoyens au Parlement, la représentation nationale se préoccupe des conditions économiques de l'emploi et demande beaucoup à la recherche, Simplement, ce qu'il faut pouvoir leur dire, c'est que la recherche est toujours utile, toujours. Voilà. Quel que soit le domaine, quel que soit l'endroit, une bonne recherche quelque part est utile à la science partout dans le monde. L'important, c'est qu'elle soit de qualité. Une grande recherche comme celle que vous pratiquez ici, eh bien, c'est de la recherche qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, est utile, et pas seulement sur le plan économique, évidemment, utile en général pour la société. Alors, laboratoire propre du CNRS jusqu'en 2001. C'est intéressant quand même, c'était une unité propre jusqu'en 2001. C'est à cette date donc que l'IEP... Pardon ?
Maintenant, il est sale.
Oh, non, justement, on va en parler. Donc c'est à cette date que l'IEP rejoint l'Université Pierre-et-Marie Curie, donc devient une unité mixte de recherche. On l'a mentionné, je ne sais pas si tu t'es déjà arrivé, Jean, on l'a mentionné tout à l'heure. Denis a parlé des relations entre les organismes de recherche historiques, entre les organismes de recherche universitaires, en disant qu'elles étaient presque, mais non, entre, quand on parle de l'université Pierre-Marie Curie, elles sont résolues, Denis, ça y est, voilà, absolument. Mais enfin bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'université Pierre-Marie Curie dans la vie. En tout cas, manifestement, le passage de l'UPR à l'UMR ici, puis avec la création de l'Observatoire des sciences de l'univers, est quelque chose qui s'est fait. Laurent en parlait il y a quelques instants, dans de très bonnes conditions, je crois. Et en tout cas, nous espérons réellement que tout cela va se poursuivre dans les meilleures conditions. Alors, on m'écrit ici que l'IAP n'échappe évidemment pas au programme des investissements d'avenir. Je ne sais pas si j'aurais écrit « n'échappe pas » parce que le programme d'investissement d'avenir étant ce qu'il est, autant essayer d'en profiter. L'IAP coordonne un laboratoire d'excellence qui s'appelle l'Institut Lagrange de Paris. En lisant ça, j'ai espéré pour vous qu'il s'agissait de l'Institut des multiplicateurs de Lagrange de Paris. Au moins pour ce qui est, je ne sais pas si ça concerne les ressources ou la multiplication des beaux résultats, mais je pense que c'est très important que vous puissiez aussi effectivement ce LABEX, c'est un LABEX qui est à l'interface entre énormément de disciplines, physique théorique, physique des particules, astrophysique, cosmologie, et c'est quelque chose dont vous devez absolument être fier. Dès le début des années 60, la réputation internationale de l'IAP se construit, se développe énormément, par notamment de remarquables travaux en astrophysique théorique, on en a parlé il y a quelques minutes. La physique stellaire est alors à l'honneur, mais l'étude de notre galaxie et des galaxies en général pointe son nez. On a bien compris ça. Les prémices cosmologiques de l'Institut apparaissent et la reconnaissance internationale grandit encore, notamment grâce à la mise sur pied des fameux colloques internationaux de l'IAP. On y parlait sans doute déjà anglais. L'ouverture internationale s'accélère. Deux domaines majeurs apparaissent. La cosmologie, le traitement massif des données. Là aussi, j'en ai entendu parler il y a quelques minutes. Et qui font clairement partie de la réputation de l'IAP. C'est une réputation qui s'accompagne d'une attractivité remarquable. De nombreux visiteurs prestigieux d'un peu partout, vous l'avez mentionné, chers collègues, qui viennent travailler maintenant régulièrement ici à l'IAP. La composante observationnelle est encore vive, mais l'IAP, c'est dès le début le rendez-vous marquant des planètes extrasolaires, des planètes, des exoplanètes. Ces dernières années sont naturellement marquées par le rôle clé joué par l'IAP sur le grand relevé du télescope Canada-France-Hawaï et bien plus récemment la mission Planck de l'ESA. On n'oublie pas les remarquables travaux sur la détection au sol ou dans l'espace, la caractérisation donc des planètes extrasolaires. Et enfin, l'IAP est aujourd'hui à la tête d'un consortium international, Euclide, dans le cadre d'Euclide, dans le cadre de la grande mission Euclide de l'Agence spatiale européenne. Tout ceci a été rappelé il y a quelques minutes, je ne m'étends pas. Ces travaux sont complétés par de remarquables simulations numériques, des développements théoriques. C'est une recherche interdisciplinaire dont vous savez qu'elle est chère au CNRS et qui prend ici toute sa dimension. La construction scientifique remarquable de l'IAP est l'œuvre de nombreuses générations d'astrophysiciens, des directeurs successifs que je salue, je vous envoie ici quelques-uns, jusqu'à l'ensemble des jeunes chercheurs formés à l'IAP qui contribuent magnifiquement à son rayonnement international, en passant par l'ensemble du personnel administratif et technique que je salue. Tous doivent être ici sincèrement remerciés. Soyez assurés que le CNRS est particulièrement fier de cette merveilleuse contribution scientifique que vous avez apportée, que vous continuez à développer au quotidien. Et le CNRS sera, avec votre autre tutelle, toujours derrière vous. Je suis sûr que tu vas dire la même chose, que tu ne me démentiras pas. Je vous remercie beaucoup et je vous félicite pour tout ce qui est accompli. Je suis absolument certain que tout va très bien se passer dans l'avenir. Merci infiniment.
Bonjour à tous. Sachant que je devrais m'adapter au discours, à l'excellent discours d'Alain Fuchs, je n'en ai pas préparé et donc je vais réagir. Je voudrais dire quand même, ça m'a été préparé, mais c'est sincère, je suis extrêmement heureux d'être présent pour fêter avec vous les 75 ans de l'IAP. Ça a été dit, dont la création a été décidée par Jean Zay pendant le Front Populaire, beau symbole, sur le conseil de Jean Perrin. Quand les politiques ont des visions et de l'ambition et s'appuient sur les visions de grands scientifiques, on ne fait pas des lois à 107 articles qui ne changent pas vraiment la donne. Donc c'était une belle époque et je crois que le succès de l'IAP et du CNRS plus de 70 ans après justifie ces choix. En même temps, comme ça a été dit, je ne peux que les regretter. Mais je les regrette, non pas qu'ils aient été pris, mais que le caractère obtus et compassé des universitaires de l'époque ont amené les autorités, pour développer la science en France, à la faire hors de l'université. Nous payons encore aujourd'hui le prix fort au niveau international de ce développement dichotomique de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'était nécessaire pour que la France puisse tenir aujourd'hui la cinquième place mondiale en recherche. C'est regrettable parce qu'on a tardé, on a rattrapé la situation depuis, mais on a retardé la fécondation de l'enseignement supérieur, la formation de générations de cadres pour notre pays en France. Et on se trouve encore avec un pays dont l'économie et la politique sont dirigées par des femmes et des hommes, surtout des hommes bien sûr, qui sortent de 4 ou 5 écoles qui sont proprement endogames et qui, contrairement aux autres grands pays du monde, ne vivent pas de la diversité des formations pluridisciplinaires issues de l'université du contact à la recherche. Donc la France a perdu beaucoup de temps de la faute des dirigeants de l'université de l'époque. Je le regrette. Heureusement, le CNRS, l'IAP ont été créés, se sont développés. Et aujourd'hui, c'est un vrai bonheur, même si c'est dans une situation très difficile pour nous, qu'on vive ce rapprochement et cette symbiose historique entre le CNRS, les autres EPST et les universités. Et je dois dire que là, Alain Fuchs joue un rôle particulièrement moteur dans ce mouvement essentiel pour notre pays. J'oserais dire, comme je ne suis pas concerné, avec un petit peu d'outrecuidance, que ce mouvement a été précédé par l'IAP et l'UPMC à partir des années 2000. C'était redit par Laurent. Et je voudrais quand même saluer le travail qui a été accompli par Jean Lemaire, par Gilbert Bérézia, avec Bernard Faure, puis Laurent Vigroux et bien sûr Jean-Charles Pomerol, qui ont associé fortement l'IAP à l'UPMC. Mais pour moi, l'IAP n'est pas un corps étranger et toutes nos unités de recherche sont associées à un EPST, principalement le CNRS, également l'INSERM. Pour nous, EPST, université, c'est consubstantiel. Nous ne sommes pas partenaires, nous sommes symbiotiques et je crois qu'il faut qu'on le reste. La deuxième remarque, ça a été dit, et notamment dans la présentation d'Anne-Marie Lagrange, que l'IAP est fort de ses 75 ans d'histoire. Car cette expérience, cette capacité à jouer un rôle d'attraction internationale, comme l'a dit Joseph Silk, ça ne se crée pas comme ça, sous le pied d'un cheval, en 5 minutes. Et on est aujourd'hui, on peut être inquiet. Quand on voit qu'on a l'effort du CNRS, d'autres EPST, de se rapprocher des grandes universités de recherche pour redonner formation à des complexes multidisciplinaires de niveau mondial. On ne peut être qu'inquiet par la politique de l'actuel gouvernement qui, sous couvert d'équité territoriale, cherche à dépouiller les centres qui tiennent le rang de la France dans le monde pour redistribuer à des universités qui ont évidemment une mission à jouer dans leur territoire, mais c'est pas en déshabillant les moins mal dotés qu'on va régler la situation des autres, et au contraire, on affaiblit tout le potentiel du pays. Donc nous sommes engagés, CNRS, Université de Recherche, IAP, dans un combat pour défendre les centres d'excellence. C'est pas qu'on est meilleur que les autres, c'est que nous sommes les héritiers d'une longue tradition qui nous donne une force irréductible. C'est vrai pour l'IAP, c'est vrai à l'UPMC aussi pour les maths, pour d'autres secteurs de la physique en liaison avec l'ENS et le Collège de France, le LKB et d'autres. Et c'est vrai pour d'autres disciplines, sinon je vais me faire engueuler par Nelly Lacombe qui me regarde, évidemment la chimie, cher Alain. Mais je crois que c'est ça qui donne notre force. Le deuxième point que je pourrais dire, j'ai été moi aussi ébloui par la présentation de Frédéric Daigne. Pour un biologiste cellulaire qui fait de la physiologie intestinale, ce que j'ai essentiellement ressenti dans cette présentation, excusez-moi, c'est une force poétique extraordinaire. C'est fabuleux les questions auxquelles vous réfléchissez, la manière dont vous nous aidez ensuite, quand vous faites l'effort de le traduire, mais c'était aussi souligné cet effort important de l'IAP de traduire pour le commun des mortels comme moi les recherches extrêmement spécialisées et poussées et complexes que vous menez, donner du sens à l'univers, donner du sens à notre histoire sur le très long terme, nous rendre plus intelligents, plus maîtres de notre environnement. C'est bien montrer que la recherche, elle ne se mégote pas, elle se discute pas, qu'elle soit fondamentale ou qu'elle soit plus directement susceptible d'innovation, elle est indispensable à soutenir. Et dans tous les beaux projets que vous évoquez, j'ai évidemment une tendresse très personnelle pour Planck. Un mot quand même sur, pour ne pas laisser, Alain, c'était trop facile ce que tu as fait, sans réponse, les interpellations d'Anne-Marie Lagrange. La question des moyens est une question difficile. La question de la pérennité des moyens est une question difficile, vu l'état des finances publiques, vu la contrainte très forte de nos budgets au CNRS comme à l'UPMC, et il faut qu'on l'affronte. Votre recherche, plus que d'autres, a besoin d'un financement pérenne sur le long terme. Toutes les recherches ont besoin d'un financement sur le long terme, la vôtre tout particulièrement. Il faut qu'on l'assure. En même temps, dans le système qu'on connaît en France aujourd'hui, je pense qu'on ne reviendra pas, et ce serait d'ailleurs désolant de revenir sur la politique des appels à projets compétitifs et sur l'ANR et sur le blanc de l'ANR. Et là, c'est une autre force d'inquiétude pour nous, universités de recherche, de voir le gouvernement grignoter le blanc de l'ANR pour abonder des programmes de recherche spécialisés. Simplement, il faut le changer. Il faut que les appels à projets soient sur des durées plus longues. Et il faut surtout, ce qui ramène du financement pérenne pour les laboratoires comme pour les établissements qui les hébergent, il faut qu'on prenne en compte en France, comme ça se fait dans le reste des pays, les coûts indirects. Si on avait les coûts indirects qui nous étaient versés sur les appels à projets, on assurerait la pérennité du financement. L'autre problème, encore plus complexe, c'est vos commentaires sur les ressources humaines. C'est vrai que l'ANR, d'autres formes de ressources contractuelles, nous ont permis d'avoir un financement de post-doc qui nous manquait, qui sont un des éléments de vitalité de nos laboratoires. N'oublions pas les doctorants, les chercheurs et les ITA BIATS. Et en même temps, il faut qu'on vive nos contradictions. On ne peut pas demander les avantages du système anglo-saxon et la sécurité du système français. On doit vivre ces contradictions, d'avoir des postes de fonctionnaires qui nous donnent la liberté de faire une recherche aussi aventureuse qu'il est nécessaire, encore faut-il qu'on fasse cette aventure, et développer des postes pour accueillir postdocs et compagnie. Donc il faut qu'on vive dans cette tension. La tension principale, vous l'avez évoquée, mais je voudrais insister dessus, porte sur les postes de techniciens, d'ingénieurs et d'administratifs dont nous avons besoin. C'est 15-20 dernières années, nous avons une responsabilité collective, nous, la communauté scientifique, de nous être battus, quand on s'est battu pour l'emploi scientifique, principalement sur les postes de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, sur les possibilités de carrière ouvertes à nos doctorants, à nos jeunes docteurs. Et on a laissé les gouvernements successifs, les ministères successifs, raboter la masse salariale des postes d'ITA et de BIATS, pour maintenir le niveau des postes de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Et si on regarde, si on compare l'organisation l'encadrement scientifique en France par rapport aux grands pays scientifiques, on a un taux, non pas d'encadrement de chercheurs par ITA, parce que ce terme est tout à fait déplacé et déséquilibré, mais on a un taux d'ITA vis-à-vis des chercheurs et enseignants-chercheurs, en gros de 0,8 en France, il est de 2 ou 3 dans les autres grands pays. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire une recherche de qualité si on n'a pas un équilibre des métiers. Et il est de notre responsabilité collective de nous poser la question sur ce qu'il est le plus urgent aujourd'hui de faire pour l'avenir de la recherche française. C'est est-ce que c'est de faire un effort considérable pour maintenir un taux de recrutement de chercheurs et d'enseignants-chercheurs important, ou si c'est de rétablir le déséquilibre entre chercheurs, enseignants-chercheurs et ITA pour assurer un équilibre des professions au sein des laboratoires. C'est difficile, il faut y réfléchir, mais je crois qu'on ne peut pas éluder ces questions, et les questions et les réponses, on les aura collectivement. Alors, ceci dit, c'est les questions qui se posent à nous. L'avenir est radieux, Alain l'a dit, j'en suis convaincu. Vous trouverez des solutions, on sera à vos côtés pour essayer de les accompagner autant qu'on peut. Le LABEX est évidemment quelque chose d'extrêmement important. L'Institut Lagrange est important. Vous avez dit que c'était une pérennité sur 9 ans. Pas sûr. Le LABEX, il fait partie de l'initiative d'excellence Sorbonne Université. Nous sommes en train de construire Sorbonne Université. Si Sorbonne Université passe le cap de son évaluation dans 2 ans, si elle est prolongée au bout des 9 ans, c'est un capital continu que nous aurons pour financer les opérations de recherche. Si l'Institut Lagrange est aussi performant dans 9 ans qu'il l'est cette année, il n'y a aucune raison que les responsables de Sorbonne Université dans 9 ans ne continuent pas à maintenir le même effort sur l'astrophysique au sein de Sorbonne Université. Mais pour ça, il faut qu'on réussisse l'examen de Sorbonne Université dans 2 ans. Il faut vous investir dans toutes les initiatives de Sorbonne Université, pas que dans l'Institut Lagrange. On a des programmes de recherche convergence, on a des programmes de formation, on a tout un programme de transformation de la licence pour attirer, pour mobiliser les jeunes dans une formation beaucoup plus proactive, beaucoup plus ouverte, appuyée sur la recherche, développant l'esprit critique, avec des ateliers de recherche encadrés dès la première année de licence. Il y a une place fantastique pour des exposés du type qu'on a vu, pour poser des problèmes aux étudiants en licence, les faire réfléchir et leur faire prendre conscience de ce dont ils ont besoin pour construire leur parcours, pour réaliser leur projet professionnel d'avenir. Donc là, on a besoin, chercheurs, enseignants, chercheurs ITA, on a besoin de vous pour venir dans nos licences, secouer nos étudiants, leur dire « Hey, t'as peut-être 18 ans, mais c'est pas le moment de glandouiller, prends-toi en charge, projette-toi dans l'avenir, c'est le moment de faire l'effort pour aller de l'avant et pour construire ton avenir. » Avec ça, on remporte Sorbonne Université, et avec ça, vous avez l'Institut Lagrange jusqu'à la fin des temps, enfin, jusqu'à ce qu'un ministre encore moins avisé que les précédents supprime ce mode de financement. Mais soyons optimistes, ça n'arrivera pas. Et pour l'instant, ce qu'il faut, c'est célébrer avec toute la réjouissance possible les 75 ans de cette très belle aventure. Je ne serai pas là pour les prochains 75, donc bon vent.
Merci beaucoup de toutes ces remarques et tous ces commentaires. Et puis, je voulais aussi remercier tous les gens qui ont contribué à cet événement. Vous avez dit que c'était une certaine forme d'autocongratulation, ce qui est vrai. Mais c'est aussi une manière, je pense, de recréer, de donner du lien à l'intérieur d'un laboratoire pour qu'on partage effectivement un moment, on revienne sur l'histoire, sur le passé, sur ce qui a fait la chose. Et pour vous donner une idée de la... Je ne peux pas citer tous les noms des gens qui ont contribué à cet événement, mais comme demain, c'est lié aussi à... On reste ouvert pour les fêtes de la science, pour avoir l'exposition. On a fait le compte, il y a plus de 40 personnes de l'Institut qui ont contribué physiquement à préparer soit l'exposition, soit le livre, soit le film, et qui seront là demain pour accueillir le public. Et je tiens aussi... Je pense que...